Bonjour, mon nom est Tom Eden et je suis le réalisateur de la série « Gaspé au temps de la Deuxième Guerre mondiale » qui est une présentation du Berceau du Canada, rendue possible avec le support d'Anciens combattants Canada et de la ville de Gaspé. Dans cet épisode, nous nous retrouvons dans le cœur de l'action de la bataille du Saint-Laurent. L'arrivée tant appréhendée des sous-marins allemands dans notre région devient réalité et les pertes seront lourdes. Fabien Sinette commence le tout en présentant le grand Manitou de la marine allemande, l'amiral Karl Dönitz.
L'amiral Dönitz, lui, il avait dit à Hitler, hein, « Donne-moi des I-300 sous-marins, puis je vais gagner la bataille de l'Atlantique. » C'était un capitaine sous-marin à la Première Guerre mondiale, ça. Puis il a même été décoré, lui, de la croix de fer. Là.
Le sous-marin allemand, U-553, commandé par le capitaine Karl Thurman, en était à sa 7e mission et avait déjà coulé 6 navires et endommagé un autre lorsqu'il a fait sa première apparition dans le Saint-Laurent en mai 1942.
Le sous-marin en question, il circula déjà pendant quelques jours là, avant la première attaque. Là. Et même il avait monté à surface une nuit. Et puis, il contempla le paysage. Le capitaine commence qu'il voyait les lumières, puis tout ça. Fait que, puis c'est là que Joseph Ferguson, le gardien du fort de Cap de Rosier, a vu la première fois un sillon. Un sillon, c'est un périscope qui avait sorti. Puis il avait aperçu ça avec ses longues vues. Et puis, là, il trouvait ça bizarre. Puis, à un moment donné, bien, il a vu là, il pensait que ça aurait pu être... Il pensait que c'était une baleine au départ, mais il a réalisé que ça pouvait être un sous-marin le lendemain. Fait qu'il a communiqué de la base navale, puis ils ont ri de lui. Ils ont dit, il n'y a pas aucun sous-marin qui a été signalé ou quoi que ce soit dans le golfe, fait qu'ils n'ont pas porté attention à ça. Mais c'est ce même sous-marin-là, dans le bout de Gaspé-Nord, il a coulé 2 bateaux, là. Leto et Nicoya. Et puis, ils ont des rescapés, mais là, ils ont atterri, ils ont sur le rivage, là, à Saint-Yvon, Cloridum. Fait que c'était les premiers, ça, vraiment, là.
Quelques semaines après le torpillage du Nicoya et du Leto au large de Cloridum, les Allemands récidivent. Cette fois, c'est le U-132, commandé par le capitaine Ernst Vogelsang, qui se porte à l'attaque en plein milieu du Saint-Laurent, à la hauteur de Cap-Chat. Bien que le U-132 fût endommagé par le navire canadien NCSM Drummondville, il fut capable de continuer sa route et fera une autre victime, près de Grande-Vallée, 2 semaines plus tard.
Ils ont coulé 3 navires dans la même journée. Là. Il y avait un navire britannique, le Dinaric, qui a eu 4 morts, le Hainaut, qui était belge, 1 mort, il y a eu l'Anastasios, grec, 3 morts. Il y a eu aussi encore du torpillage. Il y a eu le Fredrika Lensel, qui parle de 132 encore, mais à Grande-Vallée, il y a eu 4 morts. Mais le bateau n'a pas coulé. Il a été endommagé, par contre, il a été à dérive, puis il a atterri sur la plage à Grande-Vallée.
Août 1942, verra l'entrée du U-517. Commandé par le capitaine Paul Hartwig. Il commença son règne de terreur dans le détroit de Belle-Île, qui sépare l'île de Terre-Neuve du Labrador, avant de se diriger vers Gaspé.
Il est né, lui, à Saxe, en Allemagne, en 1919. Il aura fait n'importe quoi pour Hitler. Lui, c'était vraiment un nazi. Alors, une commission lui fut ordonnée, lui, le 21 mars 1942, sur le sous-marin U-517. Et puis, il reçoit de l'amiral Karl Dönitz à l'époque, là, une enveloppe scellée contenant sa mission. Sa mission, c'était de se diriger vers Gaspé. Et puis, ainsi que l'a fait en août 1942, il pénétra dans les eaux du Golfe. Et c'est là qu'il prit connaissance vraiment de la mission en détail que Dönitz lui avait donnée. C'est à couler autant de tonnage que possible des bateaux de marchandises qui ravitaillaient l'Angleterre. Sur ça, il n'y avait pas juste de la nourriture. À un moment donné, il a coulé un bateau qui était plein d'avions. Ça fait d'autres temps, c'était des chars d'assaut, mais ça reste que faisait partie du ravitaillement. Et le 27 et le 28 août, il aperçoit ses premières victimes, qui sont deux navires américains, le Chatham et le Harleen.
Suite à ces deux premiers torpillages, le U-517 poursuit son périple et le 3 septembre 1942, il coule le navire Donald Stewart au large de Tête-à-la-Baleine. Il se dirige par la suite vers la pointe de la Gaspésie et le 7 septembre 1942, coule trois navires au large de Cap-Gaspé. Les navires grecs Mount Taygetus et Mount Pindus, ainsi que le navire canadien, le Oakton. Suite à cette triple attaque, le U-517 monte le Saint-Laurent et au large de Cap-Chat, le 11 septembre 1942, il torpille la corvette canadienne NCSM Charlottetown. 9 marins canadiens perdirent la vie, incluant le commandant du navire, John Bonner. Le règne de terreur de Hartwig et le U-517 se poursuit 4 jours plus tard, alors qu'au large de Cap-des-Rosiers, en plein jour, le U-boat allemand attaqua la Inger Elizabeth et le Saturnus. Nous entendrons tour à tour la fille du gardien de phare de Cap-des-Rosiers, Yvonne Ferguson, Gerlin Sainte-Croix, qui pêchait au large, et Gérald Giasson, qui avait 9 ans en septembre 1942.
Puis à 10h20 à peu près de l'avant-midi, mon père a vraiment vu le périscope du sous-marin, puis même le dessus, là, pas mal. Et puis il est entré, puis il a dit ça à maman, à ma mère, puis il dit, « Certain, il dit, j'ai vu un sous-marin. » Puis ma mère a dit, « Tout à coup, c'est pas ça. » Puis il fallait, on rapporta tout ça à la base navale à Sandy Beach, à Gaspé. Puis... il dit, oui, c'est ça, je suis sûr. Il l'a rapporté. Puis, je ne sais pas si on pensait, ah, bonhomme a cru ça, hein. Puis, ils ne sont pas venus tout de suite. Puis là, tout à coup, là, les bateaux ont commencé, ils marchaient en double rangée, là, puis déboutaient le Cap Gaspé.
En haut large, on n'a pas pêché. Tout d'un coup, c'est arrivé. Il y avait 27 bateaux en tout, avec les corvettes. Tu sais, ça venait en convoi, hein. Pour la mort du sous-marin, on avait peur.
Hein. Je me souviens très bien qu'il faisait très, très, très beau. Une belle journée d'automne ensoleillée. Puis moi, j'étais sur le bord de la route. J'attendais des amis pour aller à l'école. C'est sur l'heure de l'école, entre midi et minuit, là. Puis on voyait le convoi passer. On était habitué à ça, à voir des convois passer. On voyait ça passer, puis moi, je regardais ça, puis j'attendais mon chum pour aller à l'école. Puis tout d'un coup, ben c'est ça, on a entendu le boum, la torpille qui a frappé le bateau.
C'était pas qu'un petit bruit, puis les maisons, les fenêtres, on entendait ça, un bruit extraordinaire.
Le premier, là, c'était pas loin de nous autres, à peu près de la maison, l'autre maison là-bas, là. Le premier qui a coulé, là. Il y a eu la torpille dans le côté. Il a fait ça. Il y a pris une seconde, on l'a perdu. Mais le deuxième, là, la torpille qui a envoyé la deuxième, là, il l'a eu par en arrière. Puis là, lui, par en arrière, là, il calait du derrière tranquillement de même. Là. Il a mis comme ça, pouf. Il a pris 11 minutes avant qu'on l'a perdu. Le deuxième bateau.
Là, pas longtemps après, des corvettes, on a vu des corvettes, et probablement des corvettes qui escortaient le convoi, qui se sont mis à tourner en entour. Puis, ben, on avait des parents, mon père, puis il était à la pêche, avec des petites barges de pêche, là. Puis on les voyait entre les bateaux du convoi, là, on commençait à avoir peur pour nos parents, là.
Les pêcheurs ont eu un petit répit, là, puis là, ils ont fini par traverser. Ils ont cassé l'haussière, même coupé de leur barge là, qui était mouillée, là, parce qu'il n'y avait pas le temps d'attendre, de lever le grappin.
Ah, hein. Oh, viens, je dis que la barge tremblait comme ça, le bateau, ça tremblait de même. Après qu'on l'a venu à terre, j'avais assez mal dans les jambes pendant 3 jours. Là. Ouais, ça tremblait comme ça.
Là, l'aviation est arrivée. Là, les avions passaient à bord. Oh, crème, là, on se demandait. Là, c'était la guerre, là.
Il y avait des chaloupes, les autres, hein? Il n'y avait pas de moteur dans le chaloupe. Ils ont mis des chaloupes à l'eau. Hein. Après, quoi, tu veux tirer ces chaloupes-là à terre. La lumière, là, il y avait un petit quai avant, là. Hein. C'est parti, mais il y avait un petit quai, là, le bas de la lumière. Là. C'est là qu'ils ont atterri, là. Les petites chaloupes qu'il y a en bas. Il y a plusieurs. Dedans, il y avait deux. Ah oui. Des petites chaloupes, ça a plusieurs.
Et puis là, les officiers, les autres là, le gardien du fort, Ferguson, ils ont remonté, puis ils ont emporté à l'intérieur du fort. Mais tous les autres marins, les survivants, ben, ils sont tous étendus sur le champ là, en attendant des camions de Gaspé pour venir les ramasser, parce qu'il y avait des blessés dans ça. Fait que finalement, ça a pris quand même un certain temps. Ces gens-là, il y avait froid. Là. 15 septembre, là, c'est pas toujours chaud dans l'eau, là. Surtout dans le bout de Cap de Rosier. Fait que finalement, les camions sont arrivés. Puis c'est là que j'ai pris connaissance, moi, c'est quoi, là. C'était quoi la guerre, là?
À 9 ans, on attendait, dans le temps, il n'y avait pas de télévision. On attendait des nouvelles de la guerre à la radio. Mais la guerre en France puis en Angleterre, là, un petit gars de 9 ans, c'était loin de nous autres. Mais là, c'était la guerre, là. Chez nous, là.
Fait que moi, je revenais de l'école l'après-midi vers 3h, 3h15. Puis je passais, j'allais toujours voir mon père, son atelier, qui était sur la pointe. Puis il y avait un magasin des vestes qui était situé à peu près, là, à l'hydrobase qu'on reconstruit, nous autres, là. À peu près dans ce secteur-là, le magasin était. Et puis, je passais toujours en avant de ce magasin-là. Puis là, j'arrive là une journée, il y avait un périmètre, là, avec un petit paquet de militaires armés et des carabines. Puis, je disais, moi, c'est quoi qui se passe là? Le monde ne pouvait pas aller au magasin. Fait que là, je me suis approché, puis j'ai rentré à l'intérieur de ça. Ils m'ont laissé passer. Ils ont dit que c'était un jeune fouineux, probablement. Fait, hein, ils ne sont pas occupés de moi. Et puis, c'est qu'au magasin des vestes, il y avait un poste d'urgence qui avait été établi par un groupe de femmes de Gaspé pour la Croix-Rouge. Il y en a une qui avait été infirmière, elle est une des sœurs de Desvestes, justement, infirmière à Première Guerre 14-18. Alors, ces femmes-là, les autres-là, ils avaient installé un genre de poste d'urgence en arrière du bureau là, du propriétaire. Alors, quelques minutes après, là, à un moment donné, un premier camion qui est arrivé. Là, ils ont laissé le camion rentrer, ils étaient tous avec une toile. Et puis là, ils sont stationnés en avant. Puis là, j'ai bien vu, il y avait deux ou trois militaires qui sont arrivés, les autres-là, avec leur carabine, pour être sûr, faire la garde, pas que personne s'approche. Et puis, là, ils ont ouvert la toile en arrière. Puis tant qu'ils ont ouvert la toile, j'étais à mon pas plus loin que d'ici au mur, là. Là, j'ai vu là, tous ces gens-là, étendus, là, couchés dans le fond du camion. Ils étaient tous pleins de sang, pleins d'huile, parce que c'était de l'huile, là, les bateaux, là, imagine-toi, là. Il y avait de l'huile à la surface de l'eau. Et puis, je remarque qu'il y en avait qui étaient en pyjama. Mais j'ai réalisé après, c'est que c'est des navires de la marine marchande. Et puis, ils ont travaillé sur des chiffres. Hein. Alors, des corps de travail. Alors, ça a donné à ceux-là qui étaient en pyjama, là, le midi, c'est parce qu'ils travaillaient de nuit, là. Enfin, je trouvais ça bizarre, tu sais, qu'ils étaient en pyjama. Enfin, mais ils voyaient ces gens-là, ils tremblaient, là. C'était une affaire épouvantable. Et puis, tu voyais juste les yeux, c'est... Ça fait que là, les femmes sont intervenues, les autres-là avaient des couvertures de laine, puis ils ont enveloppé avec ça. Et puis, arrivé avec du café, puis du thé, du chocolat chaud, puis essayer de les calmer un peu. Et puis, l'ambulance est arrivée, là, l'ambulance militaire. À peu près 5-10 minutes après, un autre camion qui arrive de nouveau, parce que c'était l'autre navire qui avait été torpillé aussi, là. C'était pas le même, là. C'était le Saturnus, là. Ça fait que c'était la même situation encore. Là. Je pense qu'il y en a un qui est mort, je pense, en arrivant à l'hôpital. Ou qui est mort sur le pont, là, mais je sais qu'il y a eu, il y a eu quand même cinq morts toute cette journée-là. Là. Mais des blessés, il y en avait 16. porté 16 blessés à l'hôpital.
Alfred Cruz, dont la maison était située au pied de la côte de l'hôpital près de la station de train, avait négocié une entente avec le ministère de la Défense, qui prévoyait que la maison pouvait servir de lieu d'hébergement en cas de besoin. Le soir du 15 septembre 1942, l'épouse de M. Cruz, Rachel Jane Butlin, surnommée « The Fighting Lady », ou si vous préférez, « La combattante », se mit à l'œuvre.
Elle faisait partie du comité aussi des dames. Là. S'il arrivait quelque chose, ça pouvait les accueillir dans une maison. Hein. Fait qu'il y a un groupe, là, que les camions, ils emportaient là. Parce que le lendemain, pour ça, ils prenaient le train pour Montréal.
Du 27 août au 15 septembre 1942, le U-517 de Paul Hartwig coula 9 navires. Maintenant, en cours de torpille, il retourne à la base de sous-marins à Lorient.
L'Allemagne l'a accueilli en héros parce qu'il avait abattu le côté tonnage là, des navires, là, puis le nombre de navires qu'il avait, puis rentré intact de nouveau au port, c'était quand même... Ça fait qu'il a reçu là, la décoration de la Croix de fer. Là.
Le 21 novembre 1942, alors qu'il se redirigea vers l'Amérique du Nord, le U-517 fut frappé par des bombes sous-marines, larguées par le navire britannique HMS Victorious et d'un avion du 817e escadron de la Royal Air Force. Paul Hartwig a survécu et a passé le reste de la guerre en tant que prisonnier des Anglais. Suite à la guerre, il demeure au sein de la marine, allemande de l'Ouest cette fois-ci, et atteint le rang d'amiral. Il décède en 2014 à l'âge de 98 ans. Pour sa part, l'amiral Karl Dönitz demeure fidèle à Adolf Hitler jusqu'à la toute fin. Suite au suicide de ce dernier, Dönitz devient, de facto, le chancelier du Troisième Reich. Il est arrêté par les forces britanniques le 27 mai 1945 et se voit condamné à 10 ans de prison lors de son procès à Nuremberg. L'homme qui a commandé les forces sous-marines allemandes qui ont coulé plus de 2800 navires de pays alliés durant la Deuxième Guerre mondiale est décédé en 1980, à l'âge de 89 ans. Ceci était le troisième épisode de Gaspé au temps de la Deuxième Guerre mondiale, une présentation du Berceau du Canada, rendue possible avec le support d'anciens combattants Canada, et la ville de Gaspé.